Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée « Chemin de vérité ». Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Le sujet de ce jour est l'Église, son organisation. Première partie. Aujourd'hui, nous commençons dans cette série d'études sur l'Église de la Bible un autre aspect de son caractère, son organisation. Dans nos études précédentes, nous avons insisté sur le fait que Jésus est le fondateur de l'Église dont nous lisons dans la parole de Dieu. Il est en même temps son chef ou roi, car l'Église est bien un royaume spirituel. La parole du Christ, contenue dans le Nouveau Testament, est la loi qui gouverne l'Église. C'est par elle que le roi fait connaître sa volonté. Comme Jésus dit en Matthieu 28, verset 18, avant de remonter au ciel, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Dans l'histoire du christianisme, les hommes ont toujours tenté de s'approprier l'autorité du Christ, s'attribuant un rôle auquel ils n'ont aucun droit. De la bouche, ils honorent l'autorité du Christ, mais dans la pratique, ils mettent de côté les clairs enseignements du Christ pour imposer leur propre conception humaine, qu'ils portent le titre de prophète-pasteur, de pontife romain, ou de président du conseil des apôtres. Ces chefs humains cherchent à jouer un rôle dont on ne trouve aucune trace dans le Nouveau Testament. Selon le catéchisme de l'Église catholique, le pape, que le catholique fidèle est censé considérer comme étant le doux Christ sur terre, a sur l'Église, et je cite, « en vertu de sa charge de vicaire du Christ et de pasteur de toute l'Église, un pouvoir plénier ». Suprême et universel qu'il peut toujours librement exercer. Notez bien que le mot vicaire, du latin vicarius, signifie littéralement « remplaçant ». D'autres communautés n'emploient pas forcément le même langage, mais en réalité leurs dirigeants s'approprient presque le même degré de pouvoir sur les assemblées. Au vu de cet état des choses dans les différentes églises de nos jours, il vaudra la peine, je crois, de revoir les passages qui insistent sur le rôle de Christ dans son Église avant d'examiner les rôles joués par des hommes mortels. Fixer dans notre esprit l'autorité suprême de Jésus-Christ peut nous aider à ne pas mal comprendre les textes qui nous parlent d'évêques ou de pasteurs, de diacres, d'évangélistes, etc. Nous éviterons ainsi d'approuver une usurpation du pouvoir de Jésus. Plusieurs images sont employées dans le Nouveau Testament pour enseigner la place de Jésus dans son Église. Il est présenté, par exemple, comme étant la tête du corps de l'Église. Éphésiens 1, versets 20 à 23 dit que Dieu a déployé sa puissance en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. La même idée paraît en Colossiens 1, verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il est évident que c'est la tête qui dirige ou donne les ordres au corps. Les membres du corps ne se réunissent pas pour voter ou décider ensemble s'ils veulent faire ce que veut la tête. Aucun membre du corps ne prétend remplacer la tête ou diriger les autres membres à sa guise. D'autres passages bibliques présentent Jésus comme le roi. Lui-même dit devant Ponce Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Jean 18, versets 36 et 37. Dès le jour de la Pentecôte, la royauté ou la seigneurie de Jésus était un élément constant dans la prédication des apôtres. Pierre conclut son sermon en acte 2 par ces paroles, « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Acte 2, verset 36. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, c'est-à-dire celui qui est roi comme roi. Comme nous l'avons déjà affirmé, son royaume n'est pas une monarchie constitutionnelle où son pouvoir est sévèrement limité, où en réalité un premier ministre gouverne le pays. Non, toute autorité a été donnée à Jésus. Une troisième comparaison qu'emploie le Nouveau Testament pour décrire la relation entre Jésus et son Église concerne le berger et son troupeau. Jésus dit en Jean 10, versets 14 à 16, « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Cette bergerie était le peuple juif au milieu duquel Jésus exerçait son ministère terrestre. Les brebis qui n'étaient pas de cette bergerie étaient les non-juifs qui accepteraient l'Évangile. Les brebis juives et les brebis non-juives forment, selon la parole de Jésus, un seul troupeau, et il n'y a qu'un seul berger. En d'autres termes, il y aurait une seule église pour tous, juifs et non-juifs. Et il y aurait un seul berger ou chef, un seul homme pour guider et diriger l'Église. Cet unique berger est Jésus. Il n'y a pas un berger dans le ciel et un autre qui représente le premier sur la terre. Quelques-uns se diront, « Mais les brebis, les simples fidèles, qu'est-ce qu'ils peuvent faire si des hommes se sont emparés du pouvoir dans l'Église ?» Oui, il y a des chefs religieux qui s'attribuent de l'autorité que la Bible ne leur donne pas. Mais les membres ordinaires n'ont aucune possibilité de changer cela. Ils sont obligés de faire ce que décident les chefs. Mais ce n'est pas vrai. Toujours en Jean 10, nous lisons au sujet de Jésus, « Les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. » Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voie des étrangers. Jean 10, versets 2 à 5. Notre foi doit être basée sur Jésus-Christ, et lui seul. C'est Jésus que l'Église doit suivre. C'est sa voix qui se fait entendre dans le Nouveau Testament que nous devons écouter. Jésus est bien le berger ou le pasteur de l'Église. Mais la Bible ne parle-t-elle pas d'autres pasteurs légitimes? Il est vrai que le terme « pasteur » ne se réfère pas uniquement à Jésus dans le Nouveau Testament. Les autres pasteurs travaillent sous la direction de Jésus, le vrai propriétaire du troupeau. Aucun d'eux n'occupe la place de Jésus sur la terre. Considérez ces propos de l'apôtre Pierre. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain honteux, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. 1 Pierre 5, versets 1 à 4. Il n'est pas nécessaire de préciser que le souverain pasteur est Jésus-Christ. Il est également clair que les autres pasteurs doivent suivre non pas leur volonté, mais celle du souverain pasteur s'ils espèrent recevoir de sa part cette couronne de gloire dont l'apôtre parle ici. D'autres objecteront que l'apôtre Pierre avait une place particulière dans l'Église. Ne l'appelle-t-on pas le prince des apôtres? N'est-ce pas à lui seul que Jésus dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Matthieu 16, verset 19. En fait, ce n'est pas la Bible qui appelle Pierre « prince des apôtres ». Mais examinons cette question des clés que Jésus promet donner à Pierre, les clés de son royaume, son Église. À quoi sert une clé? À ouvrir ou fermer? À donner ou refuser l'accès? Jésus emploie le mot « clé » de cette façon en Luc 11, verset 52. « Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entré vous-même, et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. » Pierre, comment s'est-il servi des clés du royaume pour ouvrir les portes de l'Église? Le jour de la Pentecôte, c'est lui qui a prêché l'Évangile pour la première fois. Il a parlé de la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Et quand la foule a demandé ce qu'il fallait faire, Acte 2, 38 nous dit « Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » 3000 Juifs ont obéi à cette exhortation et l'Église du Christ a vu le jour. Plus tard, en Acte 10, ce fut Pierre encore qui a prêché pour la première fois aux non-Juifs. Ce fut dans la maison de Corneille. Acte 15, versets 7 et 8 dit « Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi nous, afin que, par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. » Quant au droit de lier et de délier, il s'agit de déclarer obligatoire ou de dispenser d'un devoir. En Matthieu 23, verset 4, Jésus accuse les scribes et pharisiens d'avoir lié de lourds fardeaux et de les avoir mis sur les épaules des hommes. Ils avaient rendu obligatoires toutes sortes de devoirs religieux qui, en fait, n'étaient que des traditions humaines. Pierre aurait l'autorité de dire aux hommes ce que Dieu exigeait d'eux et ce qu'ils ne seraient plus obligés de faire. Mais remarquez bien que cette même autorité serait donnée par le Seigneur à tous les apôtres. Il leur dit en Matthieu 18, verset 18, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Tous les apôtres communiqueraient par inspiration la volonté de Dieu pour les hommes dans l'ère chrétienne. La distinction de Pierre serait le fait d'être le premier à prêcher l'Évangile et les conditions du salut, d'abord aux Juifs et ensuite aux païens. Tout comme il avait été le premier à confesser que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu. Quant à une plus grande mesure d'autorité que celle des autres apôtres, Pierre lui-même n'en dit rien. Nulle part dans la Bible, Pierre ne se réfère à lui-même comme étant le chef des apôtres, et rien ne suggère que les autres voyaient Pierre comme étant leur supérieur. Selon Galates 2, l'apôtre Paul eut à adresser un reproche à Pierre quand il était en faute. Il écrit « Mais quand Pierre vint à Antioche, je me suis opposé à lui en public parce qu'il était dans l'erreur. » Galates 2, verset 11. Quelques heures avant l'arrestation de Jésus, et donc bien après la promesse de Jésus de donner les clés du royaume à Pierre, il s'éleva parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Luc 22, verset 24. Les collègues de Pierre n'avaient évidemment pas compris les propos de Jésus comme un signe que Pierre serait le plus grand parmi eux. Et Jésus n'a pas saisi l'occasion pour appuyer la position spéciale de Pierre. Au contraire, il a tout simplement répété son enseignement que celui qui veut être grand doit s'humilier et se rendre serviteur des autres. Ni Pierre, ni les soi-disant successeurs, ni chef de l'Église sur la terre. En ce qui concerne l'organisation de l'Église, la première chose à constater est donc qu'elle n'a qu'un seul chef, Jésus-Christ. Il n'y en a pas deux, un dans le ciel et un autre sur la terre. Jésus est la tête du corps. Il est le roi qui règne sur le royaume. Il est le berger qui dirige le troupeau. Il n'accepte pas de rival. Il n'a pas besoin de remplaçant.
Majesté.